Audiolib présente Que ta volonté soit faite de Maxime Chattam. Lu par Antoine Thomé. À Nona, Suzanne, Guy et Dany, qui m'ont donné le goût de l'autrefois. Et parce qu'ils sont d'où je viens. Il essayait de se souvenir du rêve, mais il ne le pouvait pas. Du rêve, il ne restait que l'impression qu'il avait produite sur lui. Il pensait que ces créatures étaient peut-être venues l'avertir. De quoi ? L'avertir qu'il ne pouvait pas ranimer dans le cœur de l'enfant ce qui était en cendres dans son propre cœur. Cormac McCarthy, La route. Mon intention n'est que mon intention, et l'œuvre est l'œuvre. Paul Valéry, Cahiers. Avant-propos. Dans bien des romans qui dissèquent ce que sont la violence et le mal, le lecteur est placé derrière le Judas d'une porte qui le préserve au minimum, pour qu'il puisse observer, sans crainte, ce qu'il y a de pire en nous. Cette porte est la promesse tacite d'une littérature qui protège celui qui s'abandonne à elle. Dans ce livre, la porte est grande ouverte. Ce roman, bien que violent, ne recherche aucune forme de surenchère, seulement à répondre à des questions. La plus terrible d'entre elles devrait éclore en vous une fois la dernière page de ce livre tournée. Mais pour cela, il va vous falloir emprunter des routes dangereuses. Soyez prévenus. Et pour éviter tout malentendu, sachez que je ne suis pas le narrateur avec lequel vous allez faire connaissance, seulement celui qui a trouvé ce texte dans une vieille boîte poussiéreuse entreposée dans le grenier familial. Edgecombe, 18 juillet 2014. Chapitre 1. C'était un de ces matins lents, lorsque l'aube grise et humide s'étire sans fin, rampe avec difficulté vers les nuages bas, comme si elle rechignait à éclairer une journée de plus sur la terre des hommes. Riley Ingmar Petersen bondissait entre les nids de boue, au milieu des hautes herbes et des bruyères fanées, pour suivre la démarche coulante des longues jambes de son père, John, qui filait avec sa masse posée sur l'épaule. John était sec, tout en air, la peau si légère que les tendons vibraient au moindre geste, les veines saillantes, les muscles roulant comme les courants d'une mer imprévisible, capables d'exploser à tout moment dans une écume rageuse. Le fermier et son fils descendaient le vallon derrière leur propriété en direction d'un bois misérable, une poignée de hêtres, de peupliers et de frênes au tronc droit, fin, décharné, un bouquet d'arbres étiques, juste des hauts pieux formant un récif diaphane, laissant filtrer un peu de cette aube fatiguée. John appelait ce morceau de terre la lande inculte, car aucune semence n'y poussait, et même la nature, malgré son obstination séculaire, ne parvenait à tirer la moindre vigueur de cette matrice stérile. La brume nappait le coteau de flaques éparses, des débris de nuages trop lourds pour monter au ciel, songeait Riley du haut de ses 11 ans, lorsque ses cuisses se perdirent dedans en dessinant 2 sillons évanescents. Cooper, le chien, le suivait au bout de sa longe, et il disparut tout entier, n'offrant qu'une laisse fantôme pour toute empreinte. C'était un petit bâtard chétif de quelques mois à peine que Riley avait trouvé la veille entre 2 poubelles, tremblant de peur ou de froid, d'un gris et noir hirsute, le poil emmêlé jusque devant les yeux. Riley savait que son père détestait les chiens. Il répétait qu'il puait, qu'il n'était pas digne de confiance, que ce n'était qu'un estomac de plus à nourrir. Pour autant, cette fois, Riley n'avait pas pu s'empêcher de consoler le pauvre animal, de le cajoler, pour finir par le ramener à la maison. Son père l'avait transpercé du regard. Le garçon savait que l'expression exacte était « fusillé du regard ». Il n'était pas idiot. Il allait à l'école.